Et je vais pouvoir demander maintenant à Olivier Schmitt de nous parler du modèle de la psychiatrie communautaire. Olivier Schmitt, qui est doctorant en géosciences à l'Institut de géographie et durabilité à l'Université de Lausanne en Suisse. Merci.
Peut-être juste un petit mot, parce que je n'arrive pas à le faire marcher. Comme vous allez nous quitter entre-temps, on voulait, je pense, vous remercier collectivement pour la maîtrise de la journée, et puis ce fut très brillant, on le savait, mais ça se confirme une fois de plus. Merci beaucoup, professeur.
Bon, moi, je vais commencer peut-être par une bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas vous parler de rétablissement, mais bien des problèmes que le rétablissement peut rencontrer dans la mesure où vous avez un levier qui est extrêmement puissant, et puis qui est le housing first, le logement d'abord, mais qu'au moment où on essaye de le mettre en place, en tout cas ce qui est pour la Suisse, c'est que ça rencontre un certain nombre de difficultés, il y a des oppositions. Donc ça, on a vu notamment dans le canton de Vaud, avec un dispositif qui avait été mis en place par la psychiatrie communautaire et puis qui a connu une fin un peu malheureuse. Personne ne sait vraiment pourquoi, à un moment donné, ça s'est arrêté, alors que c'est un dispositif qui fonctionnait parfaitement bien. Donc, conduire le changement, oui, mais il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir toutes sortes de freins qui viennent entraver la mise en place de ce type de développement. Donc, si on prend le logement, le housing first, donc c'est un accès inconditionnel au logement, c'est le logement pérenne, logement individuel, séparation logement-accompagnement, bail individuel, sécurité résidentielle. Donc ça, c'est des principes philosophiques qui ont été mis en place et puis qui font que le dispositif est efficace et efficient. Alors, il y a des adaptations qui peuvent se faire parce qu'on est toujours dans cette tension entre adaptation et adoption. Mais il faut savoir que les adaptations, elles peuvent réduire l'efficacité et l'efficience des dispositifs. Donc là, on parle de populations, des populations cibles qui connaissent des troubles psychiques et puis associés ou non avec des problèmes de dépendance. Donc en Suisse romande, les dispositifs, il y a quatre dispositifs qui se sont mis en place. Un, c'était dans le canton de Neuchâtel. Ils ont un peu fait du housing first sans le savoir. Au début des années 2000, parce qu'il y avait des tensions entre le stationnaire et l'ambulatoire, notamment dans les montagnes neuchâteloises, et ils ont créé un espèce de housing first sans savoir que ça avait été théorisé à l'époque. Et c'est un dispositif qui a extrêmement bien marché jusqu'au moment où il y a eu des changements, notamment dans toute la prise en charge au niveau des infirmiers à domicile, des aides familiales, qui a cassé le dispositif. Ensuite, il y a eu le dispositif de la psychiatrie communautaire du canton de Vaud. Et puis maintenant, il y a deux expériences, mais qui sont plutôt parties des problèmes de dépendance, mais associées en général avec des troubles psychiques. Un dispositif qui existe maintenant depuis 2 ans. Et puis un dispositif qui est en train de se mettre en place sur le modèle de celui du canton de Fribourg qui s'appelle Équipe Apart. Donc, ce n'est pas une personne réelle, hein, je voulais être... Donc, c'est une sculpture. Donc, le housing first, quand l'adaptation du modèle devient une stratégie. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est quand la stratégie devient une stratégie de résistance pour essayer, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui sous-tend cette stratégie. Donc, on peut comprendre qu'adopter un modèle n'impose pas forcément de le prendre tel qu'il est. Mais dans la littérature, ce qu'on peut lire, c'est que l'exemple marseillais serait celui qui se rapproche le plus du modèle originel qui avait été proposé par Sam Semmeris. Mais toute adaptation peut réduire l'efficacité du dispositif. Par exemple, dans le canton de Fribourg, ils possédaient déjà un certain nombre de logements, ce qui fait qu'ils ont été obligés de recourir à ce parc et à jouer sur la colocation. Et puis la colocation, vous avez des personnes qui étaient extrêmement démunies dans la gestion du logement, et c'est des personnes qui ont créé des tensions parmi les autres colocataires. Alors la solution la plus facile aurait été de les exclure, mais les responsables ont loué des studios individuels pour ces personnes. Mais à terme, ce qu'on voit, c'est quand vous sortez des gens de la rue, vous les mettez en logement, au début, il y a peu... Enfin, ils sont encore dans cette logique de la rue, il y a peu de projets qui se mettent en place, mais à partir du moment où les projets se mettent en place, l'idée d'avoir un appartement à soi devient quelque chose de très fort. Et par la force des choses, ben, le colocataire devient quelqu'un qui vous pourrit la vie quelque part. Donc les accompagnements passent beaucoup plus de temps à faire à essayer de faire en sorte que les colocations fonctionnent plutôt qu'un accompagnement, dans la mesure où l'objectif n'est pas tellement l'inclusion au logement. Ça, c'est le premier objectif, mais l'objectif essentiel, ça sera l'inclusion par le logement, c'est-à-dire l'insertion sociale, le rétablissement à travers cette sécurité résidentielle qui vous est offerte par le dispositif Housing First. Donc, ceux qui vont payer la facture dans tous les cas de figure, ça sera les populations cibles, parce qu'une autre possibilité, c'est qu'en dissociant l'accès au logement, c'est-à-dire vous accédez à un logement dont vous êtes le titulaire, vous avez le bail, ça veut dire qu'il n'y a pas la pression pour le système qui accompagne d'être perçu comme un locataire par les bailleurs. Parce que les bailleurs, ce qui les intéresse, en fait, c'est la réduction des risques. Donc, réduction des risques au niveau des entrées et des baux, réduction des risques au niveau de la gestion des appartements, réduction des dégâts, enfin, etc. Et des relations de voisinage, parce que la crainte que les bailleurs ont, c'est que les bons locataires partent, et puis que l'image, à un moment donné, de l'immeuble se dégrade, et puis que ça devient difficile pour eux de trouver des bons locataires. Mais à partir du moment où ils peuvent externaliser ce risque sur une association, une société, peu importe, ça devient intéressant pour eux. Mais en même temps, si vous êtes titulaire de ces baux, vous allez avoir cette pression. Parce que si votre locataire a des comportements défaillants et que vous n'arrivez pas à réagir tout de suite comme il faut, ben vous devenez aussi un mauvais locataire avec le risque de ne pas pouvoir conserver le parc ou de pouvoir l'augmenter en fonction des besoins. Le problème, quand le logement d'abord s'est mis en place, c'est que vous n'intervenez pas sur un terrain qui est vide. Il y a déjà des acteurs qui sont en place et qui ne vous laisseront pas forcément prendre la place qu'ils occupent ou vous voir comme des concurrents, etc. Donc vous allez vous retrouver face à diverses situations de résistance, réticence, opposition ou bricolage. Donc on va vous dire, mais nous, on fait, moi je fais du housing first sans le savoir, hein. Bien, ça fait 4 générations que je fais du housing first. Alors ça, c'est un classique, c'est-à-dire que maintenant que en Suisse romande, ces dispositifs commencent à avoir un certain succès, en tout cas celui du canton de Fribourg après 2 ans, ben vous commencez d'avoir des articles de personnes, de dispositifs qui disent « mais nous, ça fait très longtemps qu'on fait du housing first », alors que dans un cas en particulier, la psychiatrie s'était rendue compte que dès qu'il y avait une personne qui pouvait avoir le moins de problèmes de comportement, eh ben, ils ne voulaient pas l'accepter dans leur dispositif. Donc, il y a cette volonté d'occuper le terrain. Et aujourd'hui, par exemple, à Lausanne, il y avait une journée de formation dans laquelle un dispositif dans le canton de Neuchâtel qui fait ce qu'ils appellent de l'hébergement différencié, ça veut dire les bancas, on les met en appart, les autres, on les abandonne dans un foyer avec un minimum de suivi, est considéré comme un moyen utopique pour lutter contre les SDF. Donc c'est quelque chose de fondamental. Plus loin, on a ce type de situation, votre housing first ne nous intéresse pas, ou plus encore, si tu viens pour faire du housing first, sache que tu n'as pas ta place chez nous. C'est le cas dans le canton de Fribourg, où le dispositif de type sleep-in considère que le mot SDF leur appartient, aucune autre structure peut utiliser cette terminologie, et ils ont des relais au niveau de l'État, ce qui fait que le dispositif qui est en train de se mettre en place n'a obtenu quasiment aucun soutien financier. Donc c'est les 3 structures qui chapeautent ce dispositif qui ont mis un tout petit peu d'argent, enfin c'est vraiment un gros bricolage. Mais malgré tout, ils ont un taux de rétention qui est supérieur à ce qu'on peut trouver dans la littérature. Les personnes qui ont des problématiques de dépendance ont des comportements de consommation qui sont beaucoup moins dommageables pour eux. Ils consomment moins, consomment différemment, commencent à avoir des projets en termes au niveau des réseaux sociaux primaires, secondaires, au niveau de l'occupation, etc. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que Sam Semberis, qui a proposé le Housing First, et un jour a crié Eureka, j'ai trouvé, Non, en fait, il y avait un dispositif précédent qui est celui, en fait, qui essaye de s'opposer à la mise en place du logement d'abord. Donc, c'était le dispositif par escalier. Donc, à chaque étape, vous pouviez vous approcher du logement, la dernière étant l'accès à un logement. Donc, c'était l'idée de l'incapacité. On devait travailler sur ces incapacités. En gros, se soigner d'abord. Quand vous étiez guéri, vous pouviez obtenir un logement. Et puis, pour les populations telles que celles dont on a parlé ces deux jours, ben, c'est clair que le résultat, c'était à force de ne pas réussir à grimper ces différents escaliers, eh ben, que ces gens se chronicisaient, soit rataient à chaque fois, soit ne renonçaient purement et simplement à recourir à ce type de dispositif. Donc c'est bien contre ce type de prise en charge que Sam Sembury s'est opposé en mettant en place le logement d'abord, en demandant simplement à ses patients « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Donc on met les gens en appartement, donc on inverse finalement la trajectoire, on finit pas par le logement, on commence par le logement, et à partir du logement, on met en place le réseau qui permet une sécurité résidentielle à partir de laquelle les gens peuvent se projeter dans la société. Donc en fait, on a un paradoxe là, on a un modèle Housing First à dividendes multiples. Donc une insertion au niveau du logement, dans un immeuble, dans un quartier, dans une ville. Les bénéfices au niveau réseau social, au niveau santé, occupation, emploi, formation. Et en face, il y a cette résistance qui peut être particulièrement forte. Donc l'idée, c'est un petit peu d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là derrière. Donc en fait, si on parle de problème social, on se rend compte qu'un problème social pour qu'il émerge, ça c'est Herbert Blumer qui l'a montré dès les années 70, c'est qu'en fait, il doit être porté par des acteurs, porté sur la place publique, qui va lui donner une légitimité face à un énorme travail de lobbying, si on veut. Pensez aux enfants de Don Quichotte, où tout d'un coup, vous avez des gens qui n'ont jamais été impliqués dans ce domaine, mais qui ont des capacités, c'est des acteurs, en fait, de se mettre en scène et qui arrivent à obtenir des choses que des institutions, des groupes de soutien n'avaient pas réussi à obtenir. En même temps, quand vous arrivez à porter un problème social sur la place publique, vous arrivez à le légitimer, vous devenez aussi ceux qui vont apporter les réponses. Alors si c'est des sociaux, des éducateurs, des psychiatres, on voit bien que la perception et la réponse, elle sera totalement différente selon qui va porter finalement cette problématique. Donc celui qui peut porter la problématique devient expert, référence, défenseur, acteur. Et puis, quelque part, il va donner à la société il va légitimer son point de vue, légitimer son approche et légitimer la manière dont il va travailler. Donc, c'est ce statut d'expert. Donc, en même temps, il y a l'idée d'un référentiel de politique publique qui est sous-jacent. Donc, un référentiel de politique publique, c'est un tout, c'est la manière dont on perçoit une problématique, c'est la manière dont on questionne une problématique, c'est la manière dont on va la traiter. Donc, on voit bien sur le schéma, là, on est sur un schéma d'incapacité, donc on est sur une forme d'assertion. Quand tu auras appris, quand tu seras un bon locataire, quand tu auras réglé tes problèmes, donc quand tu seras compliant par rapport à ton traitement, quand tu auras arrêté de consommer, là, on va te donner un logement. Et puis, Tsembury, ce qu'il montre, c'est que c'est ce système en lui-même qui produit du SDF chronique. Donc, Sam Tsembury, ce n'est pas Eureka, j'ai trouvé, c'est il faut changer de référentiel. Et puis, un changement de référentiel, c'est quelque chose de violent, parce que le statut que vous aviez obtenu, le rôle que vous aviez, la place que vous aviez dans les réponses et tout, il est remis en question. Il peut être mis en question parce que vous avez des nouveaux acteurs, il peut être mis en question parce que c'est une approche que vous ne maîtrisez pas, il peut être mis en question de différentes manières. Donc là, on passe de la notion d'incapacité à la notion de capacité. Donc on est plus sur l'égalité des capacités, ça c'est Amartya Sen qui l'a développé. C'est l'idée qu'en vieillissant, on aura aussi nos capacités qui vont diminuer. Donc, l'idée, c'est plus quand vous serez le locataire idéal, c'est de dire vous arrivez avec telle difficulté. C'est un peu comme le handicap. la personne qui est devant un escalier, comme je vous montrais tout à l'heure, et puis qui est en chaise roulante, il est dans une situation de handicap. Il suffit de mettre un ascenseur et puis la situation change complètement. Donc on est toujours dans cette articulation entre un environnement et une personne avec des difficultés, des aspects positifs, et l'environnement avec des freins et puis des facilitateurs. Donc l'idée, c'est vraiment... Et un autre aspect, c'est aussi la notion de paradigme, parce que la notion de référentiel, elle renvoie à la notion de paradigme, c'est que c'est pas cumulatif. J'entends le housing first ne se dissout pas dans le treatment first, qui était cette approche par palier. On passe vraiment dans quelque chose de totalement différent. Et je parlais de bricolage tout à l'heure, oui, parce que certains dispositifs ne maîtrisent pas les outils, donc vont essayer de prendre certains aspects du housing first et puis garder des aspects du treatment first. Au Canada, ils parlent d'hybridation, mais c'est toujours au détriment en termes d'accès et en termes de maintien pour les populations les plus vulnérables. Et l'autre aspect, c'est cette perte de posture, cette perte de statut d'expert, enfin, etc., qui est quelque chose qui compte énormément. Donc, il n'y a pas qu'une question d'argent, on défend aussi une position, une posture, etc. Donc, par rapport à toutes ces difficultés, le risque, c'est qu'on se dise, OK, on privilégie l'offre. Donc, c'est le statu quo ou le bricolage. Et c'est à chaque fois au détriment des populations cibles. En même temps, il y a des réseaux d'acteurs qui peuvent être très, très forts, très structurés, et puis qui, eux aussi, ont des choses à perdre. Donc, ça veut dire que quand vous venez avec un dispositif dont on sait qu'il marche, parce que toutes les évaluations ont montré que le housing first, c'est quelque chose qui convient pour ces populations, c'est un dispositif qui permet de les maintenir au logement, c'est un dispositif qui leur permet, à partir de cette sécurité résidentielle, de se projeter dans la société. Eh bien, il y a d'autres intérêts qui font que ça peut freiner la mise en place d'un dispositif de ce type. Donc, refuser le housing first, c'est un peu se mettre dans cette situation-là. Vous monterez à l'étage quand vous saurez monter les escaliers. C'est la même chose pour les plus chanceux qui pourraient néanmoins accéder à un logement, c'est que le logement, il vient une fin en soi. Alors que dans le modèle du housing first, qui est associé au rétablissement, c'est justement de pouvoir se projeter dans la société de cette forme, ce qu'on appelle l'inclusion au logement. Et finalement, c'est accepter ces différentes formes d'exclusion et refuser de lutter contre celles-ci, donc par l'inclusion au logement et l'inclusion par le logement. Donc ça, on a vu. Parce que l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette interaction finalement entre un environnement et une personne, avec ses compétences, ses déficiences, un environnement facilitateur obstacle, et puis c'est d'intervenir à la fois sur l'un et sur l'autre afin de permettre aux personnes de répondre finalement aux attentes des bailleurs, des propriétaires. En partant de l'idée que, ce que je montrais aussi tout à l'heure, que c'est à partir du logement qu'on va pouvoir se projeter. Et puis là, c'est l'idée de l'ascenseur, finalement, qui règle le problème de la situation du handicap. C'est d'offrir cette page blanche, finalement, à ces personnes. Alors après, c'est est-ce que ces situations de résistance, est-ce qu'elles peuvent se prolonger dans le temps ou pas? Alors un des grands problèmes, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en Suisse, on est sur cette idée équilibrer mes finances publiques, et puis le zéro mort sur mes trottoirs. Et puis le zéro mort sur mes trottoirs, c'est l'offre de type sleep-in. Parce que quand vous faites des présentations à des politiques, c'est ce qui leur fait le plus peur, finalement. Donc on a l'impression que s'ils pouvaient construire une rampe qui permettait de rouler le cadavre sur une autre commune ou sur un autre canton, c'est quelque chose qui les satisferait tout à fait. Donc ils sont vraiment dans cette gestion, finalement, du sans-abrisme, pour autant qu'il n'y ait pas de mort. Mais ils ne sont pas dans une vision de permettre à ces populations de s'inclure durablement au sein du logement. Et puis, bien évidemment, ce type d'approche, ça vous éloigne plutôt que ça vous rapproche du logement. Voilà.
d'accord. 10 secondes, c'est fini, tout a une fin. On mesurera votre résilience demain matin, on verra qui revient. Donc, juste un mot. Vous aurez sans doute remarqué qu'on n'a quasiment pas parlé de dispositif, on n'a pas prononcé le mot de territoire, on n'a pas parlé de GHT, pas de CPT, d'autres choses. Je pense qu'on a beaucoup parlé de psychiatrie, à la fois dans la santé mentale et comme discipline médicale. Donc je pense que c'était l'objectif. J'espère que vous en serez satisfaites et satisfaits. Très bonne soirée à la fois pour celles et ceux qui la passent de façon autonome ou pour les autres qui se sont inscrits à la soirée au musée. Et puis à demain avec grand plaisir.